Juste peut-être pour faire un entre-deux et une respiration, tu as dit que tu ne reviendrais pas sur le département de la Loire parce que c'était pas l'objet, mais peut-être ça mériterait en une demi-seconde que tu puisses dire, enfin redire, tu l'as tout un petit peu esquissé, en quoi il y aurait une spécificité dans ce département de la Loire qui ferait que finalement la ségrégation socio-spatiale serait moins forte qu'ailleurs. Est-ce que ça te serait possible juste de repréciser ça, juste le temps que vous affûtiez vos questions?
Bon, juste en quelques mots, parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé. Bon, la Loire est un département très particulier, parce que bon, déjà, il a une tradition ouvrière et une tradition de bon, ce qu'on peut appeler un peu le paternalisme ouvrier, dont on trouve des réminiscences actuellement. Mais surtout, c'est un département qui a été énormément fui lui-même. Hein, c'est-à-dire que les populations de nature à induire des concurrences scolaires, les classes supérieures et moyennes, ont fui de façon très massive. Et donc, le territoire est dans son ensemble plutôt paupérisé. Hein. Ce qui veut dire que cette paupérisation induit ce que j'appelle moi une mixité sociale forcée. Hein. Donc, dans la Loire, même dans les établissements privés, il n'y a pas de masse critique, comme je le dis, pour constituer des établissements qui soient des établissements bourgeois, si vous voulez. Hein. Alors, pour le coup, c'est tellement intériorisé par les populations qu'il n'y a pas de constitution de marché scolaire local. En tout cas, il n'y avait pas avant 2007. Je suis en train d'étudier ce qui est en train de se passer depuis l'injonction au libre choix de l'école. Donc, il y a dans ce département une mixité sociale, des variances interdéciles de population, par exemple, quasiment nulles. Hein, c'est-à-dire que, en gros, il n'y a pas de différence entre établissements, beaucoup au niveau des compositions sociales. Et pour le coup, il y a très peu de variances interdéciles des résultats scolaires. Il n'y a pas d'établissement de collège dans la Loire en échec scolaire, en fort échec scolaire. Il n'y en a pas. Hein. Pour vous donner une idée, le collège, entre guillemets, le pire de la Loire, serait plutôt considéré comme étant au niveau moyen de la hiérarchie des collèges français. Rien de comparable avec la situation de certains collèges en région parisienne. Donc vous voyez cet effet, je dirais, de masse de population plutôt populaire et l'absence de marché scolaire explique l'absence de... Enfin, que ce département soit en surréussite. Alors, c'est un cas extrême, mais ça permet de démontrer par la positive et non pas par les négatives les effets objectifs de la circulation des populations et des hiérarchisations de territoires. Voilà en gros, Patrick.
L'ADEP n'avait pas les résultats des départements d'outre-mer ou c'est l'équipe de recherche qui ne les a pas inclus volontairement ?
Si, il me semble qu'on les avait, mais que il me semble qu'on les a pas exploités, mais je saurais plus vous dire exactement la raison. Ça fait la deuxième fois qu'on me pose la question en 15 jours, donc il va falloir que je me renseigne là-dessus. Mais on les avait. Il n'y a pas de raison qu'on les ait pas, hein, parce que moi, enfin, bon, on a la Corse, mais vous allez me dire c'est pas un département d'outre-mer. Hein, mais bon, je vérifierai et puis je ferai passer la réponse par Patrick.
Oui, je voulais vous remercier pour votre intervention qui se situe à un niveau à la fois d'analyse sociale et politique. Et finalement, votre conclusion, c'est presque un programme d'action politique.
Non. Oui, est-ce que dans un autre contexte politique peut-être.
Non, mais dans les actions prioritaires, comment est-ce que vous comptez, est-ce que vous avez déjà pensé à ces leviers-là que vous nous proposez, comment est-ce qu'on pourrait les faire passer au niveau des décideurs, qu'ils soient institutionnels ou politiques, parce qu'il va quand même effectivement, vous avez raison, les dernières mesures prises sont plutôt de la dérégulation, enfin je crois que tout le monde en est conscient ici. Comment là, vous avez une démonstration tout à fait convaincante. Comment arriver à utiliser ça pour arriver à modifier, à revenir à autre chose, à proposer un programme politique? Je sais pas, est-ce que vous avez dans votre équipe de recherche discuté de ces aspects-là ou pas?
Oui, on en discute régulièrement, mais bon, en deux mots, parce que c'est une question vaste, mais peut-être la question qu'on doit se poser, c'est au fond qui sont vraiment les décideurs. Moi, j'avoue que c'est pas clair pour moi. Hein. Bon, il y a des décideurs, des régulateurs à des niveaux élevés de décision politique, mais il y a aussi tout un tas de décideurs locaux, hein, et intermédiaires. Et ce qu'on observe, c'est que, bon, c'est quand même un travail qui a été commandé par l'ADEP. On a rendu compte dans un colloque extrêmement intéressant de nos résultats dans l'amphi du ministère de la Recherche, en présence de tous les gens que vous connaissez, la DGESCO, etc. Donc, au moins, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils n'ignorent pas les conclusions de la recherche. D'ailleurs, je précise que on a tiré un article de cette recherche dans la foulée, qui est en ligne sur le site de l'ADEP, via la revue Éducation et Formation. Donc, les décideurs savent. Par contre, ce qu'on observe beaucoup au niveau local, c'est que nous intéressons, entre guillemets, plus les collectivités locales que les corps intermédiaires de l'institution, type inspection académique, des choses comme ça, qui font comme si on n'avait rien fait. Mais par contre, les départements sont extrêmement demandeurs parce que, notamment s'agissant des collèges, ils ont quand même la compétence de la sectorisation et eux, ils font le lien direct entre les deux. Hein. Mais ce qu'on observe plutôt, c'est une sorte de renvoi de balles, etc. Pour dire les choses clairement, je pense qu'il faut qu'on martèle que la dérégulation est négative. Donc,
oui. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce que effectivement c'est un effet induit des politiques publiques ou c'est vraiment l'effet recherché? Parce que quand on regarde les résultats scolaires, la couche sociale qui est la moins affectée, c'est finalement, pour aller vite, hein, les enfants des classes dominantes. Donc
affecté quand même, hein.
Mais moins, enfin.
Oui, moins, bien sûr.
Moins affecté. Mmh. Donc et justement la question que je me posais, est-ce que c'est tous les collèges ont été pris en compte, c'est-à-dire public, privé?
Oui, alors le privé non, parce que hélas, on n'a pas les données. Le privé, on l'a que en ce qui concerne la densité urbaine, en fait, hein, enfin la densité scolaire. Autrement dit, ça intervient pour, je dirais, objectiver les phénomènes de contexte de fuite et d'évitement, mais pas en ce qui concerne les performances scolaires.
D'accord. Eux-mêmes. Donc, la question qui se pose quand même, qui est peut-être centrale, est-ce qu'on veut vraiment que tout le monde réussisse?
Oui, mais je ne sais pas si c'est intéressant. Enfin, excusez-moi, je vais être maladroit, mais je ne sais pas si c'est la question, en fait. Hein. Sinon, il faut qu'on discute à l'extérieur plutôt d'orientation politique. Par contre, ça rejoint en fait la question que vous avez posée tout à l'heure. Moi, il me semble. Vous n'avez qu'à regarder ce que j'écris par ailleurs, vous verrez que je ne suis pas en reste concernant l'analyse que je fais de la politique éducative actuelle. Et pas que de la politique éducative d'ailleurs. Mais ce que nous on constate quand même, c'est que l'acteur scolaire lambda, excusez-moi de parler comme ça, le chef d'établissement, quelque part a aussi intégré cette façon de voir l'école par les classements et par la fuite. Il faut quand même le reconnaître. Hein. Il faut reconnaître qu'il y a des gens auxquels je ne jette pas la pierre, mais qu'il y a beaucoup de gens qui jettent de l'huile sur le feu. Hein. Et quand on observe dans les monographies locales, on se rend compte que le corps enseignant, voire même les corps intermédiaires, sont pris dans une espèce de course folle comme ça, où ils sont en fait trop réactifs, c'est-à-dire que ce qu'ils ont à régler, c'est voilà, j'ai ces parents qui me font un chantage à l'éviction vers le privé, comment je leur réponds? Hop, classe ségrégative. Ou bien je suis IEN ou chargé d'orientation, j'ai une demande de dérogation, les gens sont en train de faire un barouf, contacter le député local, etc. Je les reçois et je trouve une solution pour... vous comprenez ce que je veux dire? C'est que la notion de système, elle disparaît, mais il y a une responsabilité lourde des politiques au niveau national, et je dirais qu'il y a une responsabilité des acteurs scolaires dans leur habitus aussi. Hein. Et nous, ce qu'on essaye de faire comprendre, c'est que la plupart de nos travaux, même qu'on menait avant cette recherche, montrent que bien souvent, la fuite peut se retourner contre les populations elles-mêmes. Et que, tout simplement parce que les gens, on leur dit « allez dans cet établissement parce qu'il est bon », et ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il est bon parce qu'il a exclu des gens. Et moi, j'ai mené des travaux, et mon collègue Sylvain Brocolicchi aussi, sur des parents qui vont vers un autre établissement. Il se trouve que le gamin ne correspond pas au profil voulu. 2 ans après, il est dehors. Voilà. Donc, je crois que la prise de conscience, c'est de dire « arrêtons ce mouvement ». Madame, monsieur, je vous le dis, vous avez plus à gagner à garder votre gamin ici qu'à le déplacer. Mais bien entendu, on ne peut pas tenir ce discours si on ne met pas les moyens en face pour limiter ça. Mais voyez, le simple fait de contrarier cette logique de mouvement continu, de sauf qui peut, de à chaque carte scolaire, chaque chef d'établissement se demande s'il va perdre une division ou pas, etc. Si on arrivait à limiter cette course folle, déjà, je pense qu'on ferait beaucoup. Mais il me semble que chaque acteur scolaire est concerné, à commencer par dire, écoutez, madame ou monsieur, il n'y a pas de bon établissement. Ça n'existe pas. La bonne école, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est une bonne interaction entre vous, l'équipe enseignante, les dynamiques collectives, etc. Ça, ça existe. Mais une bonne école qui, par miracle, ferait réussir un mauvais élève, sauf si vous connaissez, ça n'existe pas. Or, le paradoxe, c'est que on peut vite s'accorder là-dessus, mais c'est sur ce mythe que fonctionne l'école française. Voilà. C'est-à-dire qu'il y aurait une bonne école, il suffirait de mettre son gamin dedans. Or, il y a des bonnes écoles, objectivement, qui font échouer beaucoup d'élèves. Hein. Moi, j'ai fait ma thèse sur l'enseignement privé. Vous voulez savoir, entre la CM2 et la seconde, les taux d'évitement d'enfants d'ouvriers de l'enseignement privé, ça m'a marqué 82%. 82% des élèves entrés à l'école privée n'arrivent pas à survivre jusqu'à l'entrée en seconde. Et après, on peut toujours nous la jouer sur le privé, c'est bien. Mais le privé, c'est bien parce qu'il trie ses ouailles. Oui.
Ah oui, je ne sais plus. Je vous ai écouté, du coup, j'ai perdu le fil de ma question. Si, voilà, c'était sur les décideurs de tout à l'heure. Oui. Enfin, bon, ça rejoint peut-être un peu ce que vous disiez tout de suite, c'est-à-dire le décideur, est-ce que c'est pas le chef d'établissement ou le directeur d'école qui dit aussi déjà, dans mon école, il y aura pas de classe européenne d'un côté et de l'autre côté de classe soutien en quatrième pour éviter de mélanger. Et puis la deuxième chose, c'est quand même que par rapport aux ZEP, on est dans ce contexte-là de concurrence, en fait. J'ai l'impression que c'est difficile pour nous de sortir de ça s'il n'y a pas un travail au moins à l'échelle locale pour que plusieurs chefs d'établissement travaillent, tant pis pour les niveaux intermédiaires et tout ça, mais qui prennent en main les choses. Donc, ils sont où les décideurs, quoi, c'est ça?
Alors, c'est vraiment une très bonne question sur la question des chefs d'établissement. Je reviens sur le cas de la Loire, qui est vraiment très intéressant. Je rappelle quand même que la Loire est rentrée dans un dispositif d'assouplissement de cartes scolaires depuis le début des années 80. Hein, faisait partie des premiers départements décidés par Savary d'assouplissement de cartes scolaires. Alors, moi, j'ai étudié ça de près. Alors, en réalité, il y a les secteurs scolaires sont conservés et puis il y a une facilitation des migrations entre élèves. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans la Loire? Ils ont créé une conférence des chefs d'établissement qui permet ça fait partie des petites gouttes d'eau, hein, mais qui permettent d'éviter les phénomènes de ségrégation. Alors, moi, je reprends une expression que m'ont dit les chefs d'établissement de la Loire. On a conclu entre nous un pacte de non-agression. C'est-à-dire que quand ils se sont rendus compte que le fait de ne pas se concerter sur les effectifs faisait que c'était un peu la roulette russe, cette année je suis sauvé, mais l'année prochaine je ne sais pas si je vais l'être, il y a eu vraiment, de façon extrêmement concertée, une assemblée, une conférence des chefs d'établissement où ils mettent tout sur la table et ils disent maintenant l'objectif vertueux, c'est de ne pas créer d'établissement ghettoisé ou d'établissement qui va couler totalement. Alors, ça n'a pas marché, il n'y en a que deux à peu près dans la Loire que je connais qui ont échappé un peu à ça. Mais pour les autres, moi je peux vous garantir que ça a joué des effets, enfin ça a eu des effets extrêmement importants. Donc, réponse à votre question, c'est pas l'échelle du chef d'établissement. C'est au moins l'échelle d'une conférence, où on peut l'appeler comme on veut, d'une assemblée des chefs d'établissement au niveau local. La question c'est quel local, à l'échelle du département, c'est mieux. Et je pense que là, il y a des moyens d'action très forts. Je me permets de dire que l'un des dommages collatéraux de l'assouplissement de la carte scolaire en cours est que maintenant ce sont les IA qui centralisent les demandes de dérogation. La conséquence directe dans la Loire a été la suppression du jour au lendemain de cette conférence des chefs d'établissement qui n'existe plus. C'est ce que j'appelle la dérégulation.
L'éducation prioritaire est caractérisée non seulement par un territoire mais aussi par toute une logique de projet. Voire de contrats, les contrats de réussite scolaire et les contrats ambition réussite, qui sont lestés par tout un travail d'évaluation, avec toute l'ingénierie des indicateurs que je pense pas mal connaissent. Je travaille au CAREP, donc au niveau de l'Académie de Dijon, et on a un rôle de diffusion et d'utilisation de ces outils-là. Tout ce qui nous est proposé est souvent, enfin non, tout ce qui nous est proposé, c'est un regard sur l'établissement vis-à-vis du national ou de l'académique. C'est-à-dire qu'il y a une comparaison, je dirais un peu fondatrice de l'usage de ces indicateurs qui place l'établissement par rapport à un ensemble beaucoup plus large. Or, d'après ce que je comprends de votre étude, ce sont des entités plus locales où s'exerce, où peut s'exercer, alors ce niveau département ou je sais pas en dessous suivant les départements, mais où peut s'exercer un déplacement des élèves que les résultats peuvent être significatifs. Comment peut-on imaginer de transformer ou de réutiliser les indicateurs qui nous sont proposés pour observer non plus seulement l'établissement contre tout le reste, mais un agrégat de plusieurs établissements? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, la première question, c'est comment, mais c'est aussi est-ce que l'on peut ou à quelles conditions on peut. La deuxième question, c'est que l'éducation prioritaire concerne le second degré, mais également le premier degré. Donc j'ai bien compris que la recherche concernait uniquement le second degré, au niveau du premier degré. On peut imaginer qu'il y ait des fonctionnements un peu similaires à des échelles sans doute plus réduites, puisque les déplacements possibles sont, j'irais, un peu plus limités encore qu'au collège. Est-ce qu'il y a des perspectives d'études qui iraient dans ce sens-là, pour qu'on ait une vision, puisque l'éducation prioritaire concerne le premier et le second degré, comment on peut avoir une compréhension de ce qui se passe au niveau du premier degré dans des territoires avec des échelles adaptées, quoi.
Alors j'essaie de répondre de façon ramassée sur la première question. Bon, je crois que effectivement il faut sortir de l'échelle de l'établissement. On a vu tous les effets pervers que ça avait de raisonner à l'échelle de l'établissement. Donc il me semble qu'il faut raisonner à l'échelle des territoires, au moins des territoires prioritaires, mais surtout des territoires prioritaires pris dans leur ensemble. Et je pense qu'il faut sortir un peu de cette facilité politique à vouloir faire, par exemple, du management des établissements scolaires, le dogme. Moi, il me semble qu'il faut, par rapport aux acteurs scolaires, avoir une position équilibrée, c'est-à-dire ne pas surenchérir sur l'échelle de l'établissement, parce qu'on voit très bien que c'est pas juste sociologiquement, ne pas non plus être dans un discours de déresponsabilisation totale, mais il y a quand même un juste milieu à trouver entre, je dirais, l'instauration d'une dynamique éducative territoriale et l'application de méthodes managériales à l'échelle de l'établissement. Enfin, il y a quelque chose à trouver entre les deux. Deuxièmement, ce qui concerne les projets, moi, ce qui me surprend beaucoup dans les projets de REP, c'est que les différents éléments qui apparaissent là en haut de cette page sont rarement des projets de REP. Moi, ça me surprend beaucoup. C'est-à-dire que, je veux dire un terme un peu facile, quoi, mais en fait, nous, on a une position assez modeste là dans ce travail. On parle plutôt du contenant du travail pédagogique que du contenu. Et on montre que le contenant détermine quand même les types d'interactions, les types d'engagement, etc. Et on se rend compte bien souvent, moi ça me surprend beaucoup, que le contenant s'intéresse pas à grand monde. C'est assez surprenant. C'est-à-dire que preuve du contraire, mais une politique REP ou RAR ou ce que vous voulez, qui serait adressée aux professionnels qui exercent sur le territoire eux-mêmes, j'allais dire dans leur rapport au territoire, dans leur professionnalité, etc., dans les conditions de possibilité de fidéliser des équipes, etc., on a l'impression que c'est de la compétence du ministre, ça. Mais rarement du local. Or, nous, ce qu'on observe dans les territoires populaires qui pourraient être en déclin, ce qui fait vraiment la différence, c'est qu'il y a non pas des managements locaux, mais il y a des communautés locales. Au sens le plus, j'allais dire, anthropologique du terme. C'est-à-dire que les acteurs du territoire font corps entre eux. Il y a une relative continuité entre l'école et les partenariats locaux, mais pas de façon formelle. Les gens se connaissent. Il y a des relations des liens d'interconnaissance, de collaboration, etc., etc. D'autre part, ce qu'on observe aussi, et ça c'est un rôle qui est considérable, partons du premier degré, selon que l'on a des IEN qui sont portés à soutenir les équipes ou qui sont simplement portés à faire une visite de temps en temps très classique, ça change beaucoup de choses. Donc nous, ce qu'on observe, c'est que la condition minimale de construction d'activités pédagogiques fortes et la constitution d'équipes locales, la pérennisation de ces équipes et surtout le soutien de ces équipes dans la durée et notamment dans les crises qui peuvent éventuellement être traversées. Or, ce qu'on observe dans les départements de sous-réussite, c'est une forte atomisation des carrières professionnelles, c'est-à-dire les gens, en gros, ils sont isolés hein, dans leur établissement. Alors aussi un élément important, je ne sais pas quelle conclusion on peut en tirer, des conflits très forts entre les chefs d'établissement les équipes. Bref, c'est-à-dire qu'on observe tout l'inverse de ce qui pourrait être une espèce de communauté publique d'intérêt local au service de la réussite de tous. Et ce qui est assez étonnant, c'est que moi, je vois souvent des projets de REP qui sont des espèces, excusez-moi, de cache-misère. C'est-à-dire qu'on voit que c'est le feu entre les professionnels, que c'est le feu entre les professionnels et les collectivités locales, des trucs comme ça. Et puis le projet de REP, c'est l'interculturalité, vous voyez. Mais ça a strictement rien à voir avec le schmilblick, quoi. Hein. Et souvent, je vois comme ça des choses qui sont des tentatives de diversion, quoi. Hein. Et il me semble peut-être, sans rendre ces affaires-là publiques, on n'est pas obligé de crier ça sur les toits, mais qu'il y ait à l'interne de vraies constitutions de politique éducative locale, prenant en compte les intérêts des professionnels, et j'irai même plus loin, associant par exemple les syndicats, etc., plutôt que d'être dans la logique de la confrontation. Regardez le coup de Fillon, là, je crois, qui vient encore de nous faire, là, ou de Châtel, pardon. Voilà, il faut que les enseignants restent dans les EP, donc on sort le bâton, quoi. Non, faut faire comme on fait là, montrer que c'est dans l'intérêt de tous. Hein, mais des dispositifs coercitifs de fidélisation à des territoires, ça ne marche pas. Le rapport au territoire a une dimension culturelle aussi qu'il ne faut pas négliger. Et je dirais que la culture, ça ne concerne pas que les familles issues de l'immigration. Ça concerne aussi les enseignants républicains de temps en temps. Hein. Voilà.
Le point subliminal, c'est que c'est une dépêche d'agence d'hier, qui dit que pour le recrutement des enseignants en rare, vraisemblablement, le ministère souhaite réfléchir à la généralisation de l'entretien et du recrutement par entretien par les chefs d'établissement sur les personnels qui travailleraient dans les RA, ce qui existe dans un certain nombre déjà d'endroits sous des modalités diverses et différentes avec des postes profilés. Une petite dernière pour la route.
Ouais. J'ai pas dû répondre à ta deuxième question, il me semble, mais... Hein. Oui, c'était quand même une question importante, Patrick. Moi, je suis assez étonné. J'avoue que là, c'est plutôt du côté de la recherche que je me retourne là. C'est que je ne sais pas pourquoi la problématique des ségrégations n'a pas pénétré le premier degré et les problématiques de carte scolaire aussi. Et du coup, il y a une dissociation qui est faite entre second degré et premier degré que moi je n'arrive pas à comprendre d'un point de vue sociologique. Bon, il se trouve que moi je suis élu dans ma commune, élu local, et je m'occupe des questions d'éducation et je vois les stratégies des familles dès l'école maternelle. Or, il y a vraiment une dissociation des deux questions que je ne comprends pas. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas de travaux de recherche qui combinent premier et second degré. Donc s'il n'y a pas de travaux de recherche, c'est-à-dire que politiquement ça ne va pas être très avancé non plus, hein, à vue de nez quand même.
Oui, comme il est très tard, très rapidement, si j'ai bien compris vos travaux, il y a énormément de conclusions qu'on peut en tirer. Moi, il y en avait une qui m'intéressait, c'était la question de la pertinence, je crois, vous avez dit à un moment donné, oui, de la pertinence de l'échelon académique.
Oui.
Si j'ai bien compris, c'est le territoire départemental qui est le plus significatif.
Oui.
Donc, si on prend vos conclusions, ça signifierait actuellement, dans la politique éducative telle qu'elle est conçue, que l'échelon académique, en fait, il est quasiment pas pertinent. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a un projet académique, par exemple pédagogique. La politique académique d'éducation prioritaire, il y a le niveau ministériel, et après, elle est pilotée au niveau académique. Et en plus, actuellement, si j'ai bien compris, on assiste à un phénomène où les niveaux départementaux, au niveau des responsabilités au sein de l'éducation nationale, peu à peu, sont reconcentrés au niveau des rectorats des académies. Donc, vos conclusions vont à l'encontre quasiment de l'organisation actuelle ou en préfiguration.
Oui, de toute façon, ça va souvent à l'encontre. Ça, c'est non. Mais par contre, je suis pas d'accord avec ce que vous avez dit, c'est-à-dire que alors l'échelle académique, faut bien être clair, hein, c'est-à-dire que c'est parce qu'on travaille sur le lien entre morphologie socio-résidentielle et réussite scolaire qu'on observe ce lien. Et au niveau de la typologie des morphologies, le département est la bonne unité. Hein, faut bien voir d'où on parle. Je l'ai dit tout à l'heure, à l'échelle de la région, il y a trop de variances infra-régionales et donc ça produit un nivellement de la moyenne. Donc c'est pas intéressant. Par contre, moi, ce que j'observe, c'est que ce qu'il faut travailler, c'est cette médiation entre le spatial et le scolaire. Mais quand même, les IA départementaux, ils ont quand même des compétences très fortes dans la répartition des moyens et dans la carte scolaire versus distribution des moyens et non pas versus affectation. Et je suis désolé, cette compétence, elle reste encore très décentralisée. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est de voir comment chaque opération de carte scolaire en France, tous les ans, il n'y a pas moyen, alors c'est vraiment mon objet de lutte, vous voyez, de tous les jours, il n'y a pas moyen de mettre du vertueux dans cette affaire. Il y a pas moyen, alors qu'il y a des DEN, des tout ce qu'on peut imaginer, etc., des représentants de parents, des représentants de professionnels, à chaque fois, ça tourne en notre boudin, c'est la guerre de tranchées entre l'IA et les usagers de l'école, voire les enseignants, dans ces fameuses opérations de carte scolaire. Hein. Or, il faut bien comprendre que nous, notre nœud problématique, il se situe là quand même. Parce que dans ces opérations de carte scolaire, il se joue des choses très importantes, en réalité. Pourquoi ? Parce que vous avez compris que qu'est-ce qui est le nerf de la guerre dans ces concurrences effrénées au niveau local, notamment entre chefs d'établissement ? C'est la dotation horaire. C'est la dotation au poste. C'est ça qui fait flipper les chefs d'établissement. Quand ils perdent des postes, quand ils perdent tout ça. Et vous comprenez que dans ces logiques de perte de poste, l'IA, lui, a un rôle déterminant pour attiser les concurrences ou non entre les établissements scolaires. Or, ce qu'on voit, c'est que les modalités d'affectation des moyens, de sectorisation versus moyens et pas affectation, bon, d'une part, les dissocier est une folie, bon, mais ça, c'est autre chose. Mais surtout, ce qui est important, c'est de voir que les critères qui rentrent en ligne de compte sont des critères absolument technocratiques, basiques, des critères de gestion. Il n'y a même pas un critère d'origine sociale qui est pris en compte. Ça n'existe pas. On est dans la préhistoire même de moi ce que j'appelle les politiques de peuplement scolaire. Voilà. Donc là, c'est une compétence qui interpelle directement le département. Ensuite, l'IA, l'académie, si elle voulait avoir un rôle, je dirais, efficace là-dedans, faudrait qu'elle pose ce problème et qu'elle forme ses IA, qu'elle crée des indicateurs, etc., permettant de ne pas faire de l'affectation des moyens, une pure opération qui est d'ailleurs, parmi les politologues qui travaillent là-dessus, l'une des plus technocratiques qui puisse exister dans tout ministère confondu. Voilà.